à tous et à toutes, bienvenue dans La Chose Commune, votre émission de Studios F dédiée à l'environnement et au développement durable. Nous sommes ravis d'entamer cette première de 2024 avec Christophe De Gruel, président d'Aglopolis. Bonjour Monsieur De Gruel.
Bonjour et puis surtout bonne année à tous les auditeurs de ZEF.
Merci, bonne année à vous également. On a estimé, on a trouvé que c'était une plutôt bonne idée donc que cette première émission 2024 avec vous pour faire le point des projets portés notamment ou co-portés par Aglopolis sur l'axe de Loire avec pas mal de projets qui sont en cours et on vous a invité pour ça. On va d'abord rappeler peut-être s'il fallait que les compétences portées par Aglopolis, notamment sur l'aspect développement durable et environnement.
Tout à fait, la communauté d'agglomération a énormément de compétences dans le domaine de ce que l'on appelle les transitions écologiques, le développement durable, la lutte contre le changement climatique.
Les mobilités
et
aussi.
Évidemment, les mobilités. Et au cœur de ces politiques publiques, il y a une réflexion toute particulière sur la Loire, notre fleuve chéri, notre fleuve adoré, notre colonne vertébrale, en quelque sorte. Et nous avons aussi des compétences très importantes qui sont réunies sous un vocable un petit peu barbare, comme l'administration française aime bien en fabriquer, qui s'appelle GEMAPI. GEMAPI, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et évidemment, le risque inondation, vous savez qu'en France, les inondations sont le premier risque naturel. Et donc, il y a la Loire, mais il y a aussi les affluents, la Cisse, le Beuvron. Et donc, on a une compétence générale pour s'occuper de ces milieux aquatiques, de ces rivières, de leurs petits affluents aussi. Et puis, sur la Loire même, à partir du 26 janvier de cette année 2024, nous récupérons la gestion des digues de Loire. Parce que l'une des, évidemment, possibilités pour lutter contre une crue centennale, cette fameuse crue centennale qu'on nous annonce, c'est aussi la qualité de nos digues. Pas seulement, mais aussi. Donc voilà, sur toutes ces thématiques qui sont liées à notre qualité de vie, à notre cadre de vie, eh bien, l'agglomération Aglopolis est en première ligne.
Il y a énormément de projets qui sont en cours, hein, qui sont en train d'être débattus, en train d'être travaillés. On va faire un petit point sur tous ces projets, en commençant peut-être par le plus visible, puisqu'il est en plein cours, hein, qui est le quartier de la Bouillie.
Il faut peut-être réexpliquer ce qu'est la Bouillie, parce que finalement, pour les jeunes auditeurs ou les plus jeunes, ça peut paraître une opération un peu bizarre. Alors, il faut faire un peu de retour en arrière et revenir au 19e siècle. Au 19e siècle, on a eu des crues centennales très très fortes sur la Loire et qui ont complètement débordé, qui ont créé, j'allais dire, des traumatismes dans les mémoires. Mais cette mémoire, elle est ancienne. Et puis aussi des inondations qui ont touché les habitations, les entreprises, les artisans. Et donc, au début des années 2000, avec l'État, il y a eu une réflexion sur le risque inondation à Blois et notamment sur le quartier Vienne. Puisque le quartier Vienne, c'est 5000 habitants, c'est des dizaines et des dizaines d'entreprises, des dizaines et des dizaines d'artisans. Et donc, la question, ça a été de se dire, bon, bah, si cette fameuse crue centennale, 1856, la dernière année, arrive, qu'est-ce qui se passe? Et donc, une opération très originale, la seule en France, est lancée, et c'est une opération de désurbanisation. Ce terme peut paraître un peu barbare, mais c'est très important. Qu'est-ce que c'est une désurbanisation? Eh bien, c'est tout simplement détruire un quartier pour permettre, non pas de nouvelles constructions, mais tout simplement pour permettre, en cas de crue centennale, au fleuve de s'écouler, puisque le quartier de la Bouillie, et notamment ce quartier qui s'appelait le Glacis, était sur l'ancien déversoir. Et donc, en cas de crue centennale, à peu près à la hauteur du pont de Gaulle, la Loire peut s'écouler, peut passer à côté du quartier de Vienne sans le toucher, avec un système d'endiguement très, très sophistiqué aussi à entretenir, et puis peut après se rejeter dans la Loire,
compte tenu de
la topographie, à peu près derrière l'usine de traitement des eaux. Donc il s'agit de retrouver le fil de l'eau pour la Loire. Mais pour cela, il fallait détruire un quartier qui s'était construit, notamment après-guerre, sans vraiment de respect des règles d'urbanisme, qui s'appelait le Glacis. Et à Blois, quand on parlait de la Bouillie, on parlait du Glacis. Et donc, nous avons lancé une grande opération de désurbanisation qui consistait à acquérir les maisons, et elles ont toutes été acquises à l'amiable, mais les maisons aussi les entreprises. Certains se souviennent peut-être de la station-service qui était le long de l'axe Wilson, d'acquérir la grande imprimerie qui était un petit peu plus loin, de faire les acquisitions de ces maisons, du foncier, de les détruire pour permettre au fleuve de partir. Mais cette opération de désurbanisation, elle ne suffisait pas parce que nous avions une grande ambition compte tenu de la qualité des paysages. Et puis, on est sur l'axe touristique majeur. Cheverny-Blois, Chambord-Blois, Chaumont. Mmh. Et donc, il fallait imaginer un traitement qualitatif. Nous avions été, en 2013, lauréats d'un appel à projet plan de paysage du ministère de la Transition écologique. Et donc, nous avions été retenus avec une dizaine de villes en France, d'agglomérations, pour réaménager ce quartier de la Bouillie. Nous avons donc lancé une étude, pris un paysagiste national très réputé, qui par ailleurs enseignait à l'école du paysage de Blois, et nous avons imaginé de réaménager tout le quartier de la Bouillie. Parce que le site du Glacis, donc le site du Glacis, juste après le quartier de Vienne, c'était une dizaine d'hectares. Mais le site que nous aménageons, le fameux site de la Bouillie, c'est 350 hectares. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça que récemment, dans la presse locale, dans la presse écrite locale, j'ai dit un Central Park.
J'allais revenir sur le terme imagé.
Pourquoi Central Park ? Parce que quand Central Park, dans les années 1860, a été réalisé à New York par le plus grand paysagiste américain, Frederick Law Olmsted, il s'agissait, j'allais dire, de préserver un espace naturel à la pointe de Manhattan et de construire autour. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose. On préserve tout ce quartier, 350 hectares, comme Central Park.
C'est la même
superficie. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Central Park, quand la municipalité de l'époque de New York, avec ce paysagiste Olmsted, imagine ce parc, ça a complètement restructuré la ville. C'est-à-dire que tous les quartiers autour de Central Park sont devenus, évidemment, au fil des ans, les quartiers les plus recherchés, les quartiers les plus huppés de Manhattan. Il y a eu une mise en valeur du quartier. L'immobilier, évidemment, a été, j'allais dire, tiré, dopé par cet aménagement de Central Park. Et ben pour la Bouillie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on assure la sécurité du quartier de Vienne et on valorise les paysages. Je vais y venir au détail, et on permet, à cheval sur trois communes, Blois, Saint-Gervais et Vineuil, parce que la Bouillie, c'est bien c'est à cheval sur ces trois communes, d'aménager ce que nous avons appelé un PANU, un parc agricole naturel urbain.
J'allais vous poser
la
question
caractéristique de cette
appellation.
De cet aménagement, un parc agricole naturel urbain, un lieu de promenade, un lieu de déambulation pour les mobilités douces, un lieu où on pourra pratiquer l'éco-pâturage, un lieu où on pourra également organiser des animations, des loisirs, des concerts. En quelque sorte, un nouveau quartier végétal qui permettra aux bâtis autour d'avoir une qualité de vie exceptionnelle et puis également un élément d'attractivité majeur pour notre destination touristique, je le redis, l'axe Cheverny-Blois, Chambord-Blois, Chaumont, le cœur de notre destination touristique.
Ça veut dire que des travaux vont avoir lieu à la fois donc, vraiment au sud, aux portes du quartier Vienne, et puis de l'autre côté de ce qu'on va appeler la rocade, là où séjournent aussi des familles de voyageurs.
Tout à fait. Alors, en ce moment, ce qui est le plus visible, c'est le traitement de l'axe Wilson.
C'est ça.
Vous avez remarqué que
les pistes cyclables, pour les utiliser régulièrement, sont propres.
Voilà. Donc, les fameuses pistes cyclables de l'axe Wilson, mais qui vont franchir le Beuvron pour aller jusqu'au pied de Saint-Gervais, reprendre la route de Chambord pour se reconnecter
à la piste cyclable qui existe déjà.
À Vineuil, donc pour sécuriser, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'à Blois, à la ville et à l'agglomération, nous sommes, j'allais dire, très volontaristes sur les mobilités douces et donc sur les pistes cyclables. Mais donc, il faut les sécuriser. Aujourd'hui, il y a des endroits, c'est trop dangereux. Et donc, l'axe Wilson, le prolongement Saint-Gervais-Vineuil, va permettre des mobilités douces totalement sécurisées à la fois évidemment pour les déplacements du quotidien, pour les déplacements de loisirs, mais aussi pour nos touristes. L'économie touristique est un atout majeur pour notre agglomération. Il faut la doper par des aménagements qui soient à la fois beaux, parce que le paysage est magnifique ici, et puis aussi les sécuriser, parce qu'il n'y a pas de raison que si on fait du vélo, on se fasse renverser par une voiture ou un camion. Donc une très grande ambition avec ce dossier de la bouillie.
Le parc des expositions va-t-il rester le même ?
Alors pour l'instant, le parc des expositions qui est géré par la ville de Blois reste en l'état et on a une réflexion globale pour voir comment les choses peuvent évoluer. Et si je parle de réflexion globale, c'est parce que là, nous sommes sur le quartier de la Bouillie, mais si on remonte un peu en amont la Loire, on arrive au lac de Loire, évidemment. Donc là aussi, il y a un grand projet de réaménagement très respectueux de la nature et de ses paysages. Il y a l'opération sous maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental avec la passerelle sur la Loire, sur les piles de l'ancien barrage. Et puis, nos aménagements se continuent à la hauteur de Candé, avec des aménagements doux qui vont nous amener jusqu'à la confluence du Beuvron et de la Loire, pour terminer à Chaumont. Donc en réalité, ces opérations forment un tout, lac de Loire, passerelle sur la Loire, Bouillie, Candé, Chaumont, pour offrir, c'est ça, c'est très important, pour offrir un cadre de vie exceptionnel aux habitants de l'agglomération, mais aussi un élément d'attractivité touristique majeur.
Vous parliez donc du lac de Loire, on va y venir rapidement, donc avec cette idée de réhabilitation d'un restaurant qui est en projet, avec, j'imagine, on est plutôt sur de l'urbanisme et du tourisme pur avec cet équipement, mais qui se trouve quand même sur l'axe de la Loire à vélo, effectivement.
Tout à fait, la Loire à vélo est un moteur exceptionnel. Vous savez, il n'y a pas longtemps, une amie m'a raconté que parmi les guides du routard, tout le monde connaît les guides du routard, même si on ne les lit pas, même si on ne les achète pas, on sait que ça existe, c'est une référence. Eh bien, le guide du routard consacré à la Loire à vélo, ça c'est important, est plus acheté que celui sur New York ou celui sur Venise. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. La Loire à vélo cartonne. Évidemment, les quartiers dont je viens de vous parler, enfin le lac de Loire, la Bouillie, la suite jusqu'à Chaumont, on est en plein dans l'axe de Loire, au cœur de notre pays des châteaux, des châteaux de la Loire, les plus beaux qui soient. Et évidemment, on veut mettre le paquet sur ces actions. Et au lac de Loire, il y a la rénovation de l'ex-capitainerie où un restaurant familial et populaire sera implanté, un réaménagement, là encore très respectueux de la végétation, de la nature, de la biodiversité, qui permettra à la fois au camping d'être admirablement placé, pour permettre également à l'activité location de canoë et kayak de se poursuivre, et puis peut-être, je rêve, mais j'y suis attaché et j'y crois, le retour à la baignade en Loire se fera. À 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, je ne sais pas, mais le retour à la baignade en Loire se fera. Et donc l'idée, c'est d'aménager tout ce paysage extraordinaire pour aussi pouvoir se connecter aux boucles à vélo qu'on appelle les châteaux à vélo pour faire Chambord, Cheverny, Troussé, Sellette. Voilà. Donc c'est un enjeu d'envergure. C'est un peu comme un puzzle. Vous savez, un puzzle,
je vois ça,
au début, vous posez une pièce,
ça n'a pas beaucoup
de sens,
vous ne
comprenez pas tout ce qui se passe. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Et à la fin,
la vision d'ensemble,
vous avez une vision d'ensemble. Et ben, l'opération Lac de Loire, Passerelle, Bouillie, Candé, Chaumont, c'est un puzzle géant pour notre qualité de vie.
On continue justement avec le Lac de Loire. Est-ce que la réflexion de la capitainerie sera liée en termes de temporalité à la passerelle qui prend un peu de temps ?
Initialement.
Alors, vous n'êtes pas le porteur principal de la passerelle.
Le maître d'ouvrage, comme on dit, de la passerelle, c'est le conseil départemental. Et initialement, avec nos collègues élus du département, nous nous étions organisés pour que, on avait imaginé, début de la saison touristique 2025, le restaurant et les premiers aménagements du lac de Loire soient terminés, parce que le calendrier de réalisation de la passerelle correspondait. Je crains que le retard pris par le département, compte tenu de l'explosion des coûts, fasse que le lac de Loire et les premiers aménagements de la Bouillie soient terminés avant la passerelle. Mais c'est pas grave, vous savez, on est toujours énervé parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que ce soit prêt demain matin. Mais dans les faits, c'est des équipements, des aménagements qui sont là pour durer 50 ans, 100 ans, 200 ans. Regardez le pont Jacques Gabriel, début du 18e siècle. Il est toujours là. Eh bien, ce que nous sommes en train de réaliser, c'est une inscription dont la longue durée, c'est la responsabilité des élus dans les collectivités territoriales de dépasser évidemment le temps de durée de leur mandat pour s'inscrire dans le temps moyen, dans la longue durée.
Vous pensez, voilà, encore une fois, sans être le porteur principal de cette infrastructure, que la passerelle pourrait désengorger les trois ponts on a plutôt sur une vocation touristique avec cette passerelle ?
Alors, c'est une passerelle pour les mobilités douces,
ouais.
Piétons, vélo, à cheval, mais en descendant du cheval, c'est-à-dire le cheval tenu par la laisse.
Ouais.
Et l'idée, ce n'est pas de désengorger les trois ponts.
Mmh.
L'idée, c'est bien un atout supplémentaire pour la qualité de vie des habitants et le tourisme.
Mmh.
Et les deux sont liés. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Très souvent, les lieux touristiques, sauf quand ils sont atteints de surtourisme, comme, je ne sais pas, à Étretat, au Mont-Saint-Michel, les Calanques, c'est souvent des lieux où il y a une qualité de vie, un cadre de vie assez unique. Et donc, la passerelle sur la Loire permettra à la fois d'offrir pour les déplacements de loisirs, mais aussi les déplacements du quotidien, une amélioration très nette des choses. Et puis, en termes de tourisme, ce sera exceptionnel parce que vous serez là avec votre vélo ou à pied au milieu du fleuve, avec la vue sur Blois qui est fantastique à cet endroit. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la liaison avec le parc des Mets. Le parc des Mets.
Remontais géographiquement, mais j'allais vous amener vers
des Mets. Le parc des Mets. C'est un lieu très fréquenté, avec la pataugeoire, avec des équipements sportifs, avec le centre équestre. Et donc, on va avoir, c'est ça qu'il faut s'imaginer, c'est pour ça que j'employais l'expression du puzzle, on va avoir un cœur de Blois en osmose, en harmonie avec la Loire, exceptionnel. Regardez, prenez un peu de hauteur, imaginons que nous sommes sur un drone, voilà. On est au lac de Loire, on voit l'ancienne capitainerie, on descend un petit peu, on voit les locations de canoë et kayak, on va la piscine du lac de Loire qui est toujours très fréquentée. Hop, avec votre drone, on est toujours en vision aérienne, on voit les gens qui descendent en canoë et kayak ou avec les gabarres de l'Observatoire Loire. On descend, on arrive sur le quartier de Vienne avec le pont Jacques Gabriel, on voit les animations musicales, on voit les concerts qui ont lieu l'été, hop, on remonte un peu vers Saint-Gervais, on voit le réaménagement de la Bouillie et tous les cyclistes qui circulent, et puis on descend comme ça vers Chaumont, à Candé, on découvre, et ça, j'insiste les habitants du territoire à faire ce petit exercice, la confluence du Beuvron sur la Loire, elle est méconnue, mais c'est un spectacle fabuleux, la rencontre de cette rivière et du fleuve, et on arrive à Chaumont, et puis rien n'empêche de quitter le territoire d'Aglopolis, d'aller jusqu'à Rilly, Amboise et Tours. Et donc, on est au cœur de la Loire à vélo. On est au cœur du pays des châteaux. Chambord, Cheverny, Chaumont, le château de Blois. Et vous savez, le réchauffement climatique, il va impacter énormément nos habitudes. On va faire le maximum, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique. On met en place des politiques d'atténuation du changement climatique, des politiques d'adaptation au changement climatique. Mais le changement climatique qui passe, entre autres, par le réchauffement, il est là. Et ben, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, c'est pas si loin que ça, finalement. Est-ce que vous imaginez que les touristes qui vont, je sais pas, en Provence ou dans le sud de la France, ils auront envie de passer deux mois d'été à 40, 50 degrés? Non, c'est une évidence. Et donc, il va y avoir une remontée des flux touristiques et il faut que notre destination
soit prête
à accueillir, agréable, prête, mais qu'elle reste nature, qu'elle reste en harmonie avec le fleuve.
On quitte cet axe de Loire, en tout cas ces différentes structures et lieux, pour parler de la Balastière à Chouzy, avec ce projet aussi de pâturage.
Voilà, alors j'étais avec mon drone,
voilà.
On avait quitté Blois,
on descend
je
le
pensais
fleuve,
à Candé parce que la Loire à vélo est de ce côté, mais De l'autre côté, en rive droite, il y a effectivement à la Bastière, la Balastière, hein, voilà. Là, on est du côté vallée de la Cisse, sur la commune de Valoir-sur-Cisse. Et la Balastière, qui est gérée par la Fédération française de pêche, c'est un lieu de pêche, hein, évidemment, mais c'est aussi un lieu de promenade extraordinaire qui n'est pas connu. Mmh. Il suffit, quand vous êtes sur la levée, à un moment donné, c'est indiqué, de bifurquer sur la gauche, de descendre. Vous pouvez vous garer en toute sécurité. Et vous avez des promenades en bord de Loire. Ah ben, c'est un choc. Parce que comme personne ne connaît ses vues, comme personne ne connaît ses perceptions, vous avez l'impression d'avoir voyagé à l'autre bout de la terre. Et tout au bout de la Balastière, côté Loire, parce que la Balastière, ce n'est pas un bras de la Loire, hein, c'est ce qui a été creusé pour extraire le sable pour construire. Mais quand vous êtes totalement à gauche, côté Loire, vous arrivez en réalité jusqu'à la fameuse confluence dont je vous parlais, de Candé, avec le Beuvron et la Loire. Et tout autour de la Balastière, on essaye de favoriser l'éco-pâturage, puisque là aussi, l'agglomération, Aglopolis, essaye de favoriser l'éco-pâturage. Il y a une tradition ancienne, hein. Il suffit de voir les vieilles cartes postales du début du 20e, de la fin du 19e, où on voyait énormément de moutons. L'avantage, c'est que ça permettait aussi d'entretenir les paysages. Eh bien, avec un certain nombre de bergers, nous réintroduisons de l'éco-pâturage tout au long de la Loire. Vous en avez peut-être vu déjà autour de la piscine Aglo. Vous en avez peut-être vu à la hauteur du lac de Loire. Vous en avez peut-être vu sur la Balastière de Chouzy. Et puis, sur d'autres endroits, puisque nous avons eu également, au pied du château de Chaumont, des opérations d'éco-pâturage au pied de ce château magnifique. Et donc, la Balastière, rive droite, ce coup-ci, fait partie de notre grande ambition, c'est-à-dire renouer le dialogue avec le fleuve. Et si je peux donner un petit conseil aux auditeurs, alors, peut-être pas au mois de janvier, hein, parce que c'est un peu frais, mais c'est de découvrir la Loire en canoë-kayak. Moi, je ne suis pas blésois d'origine. Je suis arrivé à Blois en 1994. Donc, ça va faire 30 ans, là, au mois de février. Et mon regard sur la Loire, ma perception du paysage, de sa beauté, de sa richesse, de sa biodiversité, a complètement changé le jour où j'ai descendu la Loire en canoë-kayak. J'étais parti de Saint-Laurent. Saint-Laurent, Saint-Dié, Blois, c'est extraordinaire parce qu'il y a plein de petites îles, vous pouvez vous arrêter, vous baigner, il ne faut pas que je le dise trop parce que normalement c'est interdit, mais vous découvrez une végétation, une faune, une flore que vous n'imaginez pas. Je me souviens m'être arrêté sur une des petites îles, mais j'ai cru que j'étais, dans les Caraïbes, à un endroit incroyable, avec des plages de sable où vous êtes tout seul. Et donc vraiment, à partir du moment où vous découvrez la Loire avec votre canoë-kayak, vous êtes au milieu du fleuve, vous entendez vaguement le ronronnement des voitures, vous ne les voyez pas, hein, avec les levées, et vous êtes ailleurs. Eh bien, je pense que pour comprendre le joyau qu'est la Loire, sa beauté, mais aussi sa fragilité, il faut faire le trajet en canoë, en kayak. Et puis, si vous êtes un peu plus âgé ou un peu moins sportif, eh bien, vous le faites avec les bateaux de l'Observatoire Loire. Et là encore, c'est magique. Quand il y a les concerts au mois de juillet, là...
À la Guinguette.
À la Guinguette, vous pouvez faire des petites sorties en bateau. Et alors pareil, quand avec votre bateau, là, vous arrivez et vous passez sous les arches du pont Jacques-Gabriel, mais là, vous êtes... c'est un voyage, mais également un voyage dans le temps. Mmh. Vous êtes au XVIIIe siècle en train de découvrir le travail de Jacques-Gabriel. Donc nous sommes une destination extraordinaire.
Quelle finalité de cette Balastière et les éco-pâturages? Est-ce qu'il y a d'autres zones qui vont être accaparées, entre guillemets, par Aglopolis pour ces éco-pâturages?
Il y a une réflexion globale sur la biodiversité. Ouais. Hein. Parmi les enjeux liés à l'adaptation au changement climatique, il y a effectivement de préserver la biodiversité. Il y a également une promenade que nous avons aménagée, mais très légèrement, qui est peu connue, c'est le champ de tir, hein, dans le prolongement de Saint-Gervais, en bord de Loire.
D'accord.
L'idée, c'est de respecter au maximum cette biodiversité qui fait notre force et notre richesse, mais qui est menacée. Donc oui, il y a une grande ambition. Alors, ce respect de la biodiversité se trouve dans un certain nombre de documents d'urbanisme et de planification. Alors, c'est des termes un peu barbares qui peuvent, j'allais dire, effrayer, mais c'est ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, le SCOT, le schéma de cohérence et d'organisation territoriale, le PCAET, le plan air énergie territoriale. Voilà, il y a énormément d'outils de planification qui sont à la disponibilité des élus pour les mettre en place, pour avoir une politique ambitieuse, parce que le changement ou le dérèglement climatique, c'est un choc terrible. Qui arrive. Alors, il ne s'agit pas... Moi, je ne suis pas pour l'éco-anxiété, je suis pour le bonheur. Mais ce bonheur, il faut le préserver, il faut le travailler. Et s'intéresser à la question de la transition écologique, c'est se donner les moyens de bien vivre demain pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants et ainsi de suite.
Pour terminer sur la Loire et tous les projets qui tournent autour, le projet Regard, est-ce qu'on peut en dire un petit mot ?
Alors, le projet Regard, c'est un projet d'animation. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que quand on habite depuis longtemps, dans un territoire magnifique, on oublie, on ne voit plus les choses. Et le Regard, c'est une opération à la fois de sensibilisation et d'aménagement léger, mais qui est destiné à faire redécouvrir la Loire.
Et porté notamment par le polo, c'est ça ?
Voilà, en lien avec le polo de Tours, avec cette réflexion juridique sur le statut du fleuve, puisqu'il y a un certain nombre
de Loire.
Voilà, il y a un certain nombre, le Parlement de Loire, il y a un certain nombre de paysages dans le monde, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, où le statut juridique a été donné à des entités géographiques. Donc, on y réfléchit avec le polo à Tours, parce que ce bien commun de l'humanité, il faut le préserver. Et Regard, c'est une manière tout simplement de dire aux habitants, regardez, admirez. On a fait déjà des opérations de ce type. En 2012, de mémoire, on a fait une opération qui s'appelait Fenêtre sur Loire. Qu'est-ce que c'est ? C'était tout bête. C'est que dans un certain nombre d'endroits, le long de la Loire à vélo, on ne voyait plus la Loire, parce que la végétation, parce qu'il n'y avait plus d'éco-pâturage, plus d'entretien, on ne voyait plus le fleuve. Et donc, on a recréé ce qu'on appelle des fenêtres sur Loire pour simplement rappeler à la population, en priorité aussi aux touristes, que la Loire était là, que nos paysages étaient loin. Il faut réapprendre à voir, d'où l'expression « regard ». Je me souviens que dans le cadre de notre plan paysage, nous avions fait des promenades paysagères. Mmh. Et ces promenades paysagères, elles ne s'adressaient pas simplement aux lieux emblématiques. On était une fin de journée, là, au mois de juin, dans la zone commerciale de Saint-Gervais, avant le giratoire.
De la Patte d'Oie, oui.
De la Patte d'Oie. Et puis, on déambulait comme ça à une vingtaine pour regarder aussi les zones commerciales. Alors donc 20 personnes un soir de juin qui déambulent dans une zone commerciale, ça se remarque. Et il y a un monsieur, un exploitant commercial d'une des entreprises qui sort, qui reconnaît quelques personnes et qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et on n'a même pas le temps de lui répondre, qui nous dit, et cette phrase elle est très importante, il dit « Qu'est-ce que vous faites là ? Il n'y a rien à voir. » Effectivement, ce n'est pas forcément très beau une zone commerciale. Mais quand on dit « il n'y a rien à voir », ça veut dire que tout d'un coup, notre regard, il peut être occulté. Il ne voit pas certaines choses, les choses moches, on veut dire, mais il ne voit pas aussi quelquefois la beauté. Vous voyez ? L'autre exemple que je prends, donc ça, c'est on ne voit pas une zone commerciale, mais on peut aussi désapprendre à regarder. Et moi, je suis frappé, par exemple, j'adore le château de Blois, évidemment, et quand je vais de chez moi à l'agglomération, je fais un petit détour systématiquement pour admirer la façade des loges. Et je me rends compte que quand je parle avec des Blaisois de toujours, qu'ils ne la voient plus forcément. Eh bien, le paysage, c'est aussi une éducation au regard. retrouver le goût de la beauté. Et donc, cette opération Regard répond à ces objectifs.
On va terminer cette émission avec une dernière question. On a diffusé pendant les vacances de Noël un entretien avec Yann Lafont, donc sur la gestion des déchets. Et donc, cette obligation nationale, hein, évidemment, mais sur laquelle Aglopolis va prendre en charge sur le territoire, de donc, cette gestion des biodéchets. Voilà, je voulais vous entendre dire un mot sans forcément faire de la redite avec ce qu'a dit M. Lafont dans notre
très
émission.
Très bien. Alors, je vais donner simplement un conseil à ceux qui n'ont pas de composteur. Prenez un composteur, c'est pas compliqué. Parce que j'entends des gens dire « Oui, mais c'est compliqué, il faut remuer, je sais pas faire, etc. » Ça fait 10 ans que j'ai un composteur chez moi, je ne l'ai jamais vidé. Parce qu'effectivement, les verres,
la matière
est traitée naturellement. Parce que certains disent « Oui, mais après le compost, il faut l'étaler dans le jardin. » Non, pas forcément. Le composteur permet... toutes vos épluchures de fruits, de légumes, le café, le thé, d'être digérées naturellement. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maison avec un jardin, mais vous pouvez le faire également dans d'autres conditions dans l'appartement. On a présenté ce week-end des composteurs d'appartement. Ce n'est pas très grand, ça fonctionne très bien. Et puis, on va labelliser en quelque sorte des lieux où vous pourrez vider votre composteur d'appartement. Donc voilà, c'est un enjeu majeur parce que vous savez, les déchets, les biodéchets, c'est composé à 80% d'eau. Alors, pourquoi aller mettre dans une usine qui coûte très cher d'incinération pourquoi les brûler de l'eau? Aucun intérêt. Donc, voilà, la gestion des biodéchets, c'est une avancée. L'année dernière, c'est la fameuse opération poubelle jaune qui a très, très bien fonctionné. Eh bien, cette année, c'est les biodéchets. Et vraiment, c'est pas compliqué de faire du compost.
Merci beaucoup Monsieur De Gruel d'être venu à Studio ZEF pour évoquer tous ces sujets. On vous souhaite une bonne année 2024 avec en supervision de tous ces projets qui vont prendre forme, alors plus ou moins long terme, on l'aura bien compris, mais on espère donc pouvoir peut-être vous réinviter quand tout ce pôle autour notamment de la passerelle et de la capitainerie sera fait pour qu'on puisse en rediscuter.
Je serai ravi de revenir, j'écoute régulièrement ZEF et sa programmation musicale.
Merci beaucoup les programmateurs de la station apprécieront. Merci beaucoup Monsieur De Gruel et à très vite.
Merci.
Cette émission est à retrouver évidemment en podcast sur la page de La Chose Commune et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. À bientôt, au revoir à tous et à toutes.